après la mort, peut-on dire que la substance n'est plus et que l'être demeure? Après la mort, la substance demeure, puisque c'est mon âme. Mon âme est ma substance. Donc demeure la substance. Ce que je pourrais dire, c'est que, là, serait très délicat, que ma personne est quand même mutilée. Pas de personne. La personne, c'est le tout. Il y a une brisure du tout. Je pourrais dire ça, c'est que ma personne, mon individualité, est très abîmée, très embauchée. Mon individualité, ma personne. Ma substance demeure. Parfaite. Mais mon individualité, ma petite originalité, ça c'est très embauché. Ça subit un certain coup assez rude. Il y a un gros coup. Ça secoue. La mort est du côté de la vie, en premier lieu. Et la vie, le composé. Le vivant, c'est le composé. Donc c'est une rupture du composé. Et au niveau métaphysique, hein, la mort n'existe pas. La mort est un phénomène strictement biologique. Parler de la mort au niveau métaphysique. Hein. Puisque c'est l'être. L'être ne meurt pas. Là, c'est ce que vous avez senti. L'être demeure. L'être ne meurt pas. La substance et l'acte ne meurent pas. Ils ne peuvent pas mourir. C'est au niveau de la biologie que la mort doit se comprendre en premier lieu. Alors, il y a une répercussion exactement comme la matière. Vous voyez, parce que le corps essaie de poser de la matière. La matière n'est pas intégrée immédiatement en métaphysique. Elle est intégrée du côté du pos. Alors la mort, c'est du côté du pos. Mais ce n'est pas du côté du tiers. Donc ce n'est pas immédiat. L'être est au-delà de la mort. Mais la manière d'exister, alors là aussi. Je n'insiste pas plus, mais vous n'avez qu'à prolonger ça. Et vous verrez ce que ça peut être comme intérêt particulier. Alors, comme c'est l'avant-dernier, je crois, nous avons encore un coup. Ouais. Est-ce qu'on aura encore pas su? Demain, je serai obligé de partir, je crois, sitôt le premier cours. Alors, on va essayer de prendre tout de suite, ensemble, ce qui termine ce grand livre des états. Vous avez compris un peu l'esprit, c'est déjà quelque chose. Alors le livre Zeta se termine par le chapitre 17. Et le chapitre 17, vous allez voir, est un chapitre extrêmement beau, qui est difficile à bien saisir, mais extrêmement beau. Alors on va le lire. Vous essayez de comprendre. Il faut établir ce qu'est la substance. Et quelle espèce de chose elle est? C'est toujours très intéressant de voir comment Aristote revient tout. Tidé crée l'égen, kai, opoioson, ti, ten, ousia. Donc, savoir ce qu'est le ti, ce qu'il faut dire de la substance, et le point de vue du opoion. Donc, ce qui est la substance, il faut établir ce qui est la substance et quelle espèce de chose elle est. En nous appuyant une fois de plus sur un autre principe, car peut-être à partir de ces considérations, éclairons-nous aussi le cas de cette substance qui existe séparée des substances sensibles. Ça, c'est à souligner deux fois parce que c'est très important. Donc, Aristote veut savoir ce qu'est la substance, ce qui est la substance, pour éclairer le cas de cette substance qui existe séparée des substances sensibles. Oui, Aristote veut dépasser le pose des substances sensibles pour saisir ce qu'est la substance. si on saisit ce qu'est la substance, on peut dire quelque chose des substances séparées. Tandis que si je reste uniquement au niveau des substances sensibles, de ce pose des substances sensibles, des substances premières, dans le langage du prédicament, je ne peux rien dire sur les substances séparées. Mais ça montre bien l'intention profonde de la philosophie première d'aboutir à la théologie. Et ça montre bien que je ne pourrais dire quelque chose des substances premières, des substances séparées, que dans la mesure où j'aurais saisi ce qu'est la substance et ce qu'est l'acte. Si je reste au niveau des poses, je ne peux rien en dire. Et c'est ça, je crois, l'intérêt de ce que nous dit ici Aristote. Donc, puisque la substance est principe et cause, vous voyez que ceci, c'est affirmé, ce n'est pas découvert. C'est ça qui est très délicat. Puisque la substance est principe et cause, tel sera notre point de départ. Si la substance est principe et cause, je ne peux saisir la substance qu'à travers une induction. Aristote nous le dit textuellement dans les Analytiques. Un principe et une cause ne peuvent être saisis que par l'induction. Puisque je ne peux pas atteindre par le point de vue de la sensibilité, par le point de vue des sens, par le point de vue de l'expérience liée au sens, un principe. Je ne saisis que des faits existants. Je ne saisis que des réalités complexes. Et je ne saisis pas le principe. Le principe échappe, il est au-delà. C'est quelque chose qui va, je ne peux saisir que par le point de vue d'induction. Alors, comment se fait-il qu'Aristote affirme, puisque la substance est principe et cause? Au nom de quoi Aristote dit-il que la substance est cause? C'est au nom des catégories. C'est grâce aux catégories. Les catégories me mettent en présence de quelque chose qui est au-delà des attributions. Ce qui est au-delà de l'attribution, c'est la substance première. La substance première est au-delà de toutes les attributions. Donc, c'est un principe et une cause. Je ne dis pas ce qu'est ce principe, mais je dis qu'il est principe et cause. Et il y a toujours deux manières d'affirmer les choses. Si on essaie de saisir ce qu'est le principe, c'est l'induction. Le fait du principe, c'est la description. En regardant les 10 catégories, je vois qu'il y a une substance première. Et la substance première joue le rôle de principe et de cause. Puisque tout lui est attribué et qu'à elle, elle n'est attribuée à aucun. Donc elle est première. Le principe est le premier. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. La substance première est au-delà des catégories. La substance est au-delà des catégories et elle joue le rôle de principe et de cause à l'égard de toutes les autres catégories. C'est les sujets qui reçoivent. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le je ne sais pas ce qu'est ce principe. Et toute la recherche de la métaphysique, c'est de chercher ce qu'est ce principe, le tiesti de ce principe. Le tiesti de la substance. Mais je sais déjà par le prédicament que la substance existe et qu'elle est principe. Regardez le début du livre Zeta, où Aristote dit textuellement, il rappelle ça, et il dit que la substance est principe. Et voyez, ceci donne la signification de tout le livre Zeta, où Aristote, donc, sait que l'ousia est quelque chose de premier. Et pour toute la recherche du livre Zeta, c'est montrer qu'elle est première dans l'ordre de l'être. Elle est première dans l'ordre du Toa. Qu'est-ce qui est premier dans le Toa? C'est lui. Et tout ce qu'on a vu, c'est de montrer que ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité, ce qui est premier dans l'ordre du devenir, ce qui est premier dans l'ordre de la réalisation artistique, n'est pas la substance. La substance, c'est le premier de tous les premiers. Si ce qui est premier par rapport au devenir, les premiers qui sont dans le devenir ne sont pas la substance. Et tout le livre des états, c'est de montrer tout ce que nous avons essayé de comprendre dans le livre des états, c'est de montrer que tous les premiers qui ne sont pas le premier dans ce qui est, donc dans l'ordre de l'être, n'est pas la substance. Comme nous avons biffé tous ces premiers, tous les chapitres que nous avons vus jusqu'au livre 17, c'est tout négatif. La substance n'est pas. La substance, et les derniers chapitres, la substance n'est pas l'universel. La substance n'est pas l'un. Donc on a biffé tous les premiers. Pour montrer que la substance était première dans l'ordre de l'être. Elle est première, puisque la substance est première. Puisqu'elle est première et cause, donc je ne peux la saisir que par l'induction. Je ne peux savoir ce qu'est la substance que d'une manière induite. Et non pas d'une manière descriptive. Tel sera notre point de départ. Donc c'est assez net. Hein. On reprend tout. Tous les 16 premiers chapitres, les 15 premiers chapitres, puisque le premier est un peu différent. Mais on peut dire que ce sont des chapitres qui projettent. C'est une purification qu'un résultat fait par rapport à tous ces devanciers qui n'ont pas découvert ce que c'était que la substance. Ils ont parlé de la substance. Platon a parlé de la substance. Mais Platon a identifié le premier dans l'ordre de l'intelligibilité et le premier dans l'ordre de l'être. Et c'est pour ça qu'Aristote a inventé le totiel. Il a inventé totiel et nal pour bien séparer le premier dans l'ordre de l'intelligibilité du premier dans l'ordre de l'être. C'est pour ça que la substance n'est le tiesti de la substance, ce n'est pas la cuité, ce n'est pas le totienena. Tandis que la substance implique l'intelligibilité d'une façon souveraine. Mais l'intelligibilité n'est pas la substance. C'est assez subtil, c'est évident, mais intéressant du coup, ça, à bien comprendre ce qui nous est dans ce livre. Il faut le lire 100 fois. Puisque Avicenne a dit qu'il a lu 50 fois et que ce n'est qu'au bout de 50 fois qu'il a compris. Alors, Matt, ne vous inquiétez pas, si c'est la première lecture qu'on fait du livre des états et de ne rien comprendre. Ce n'est pas inquiétant. Ce qu'il faut, c'est d'essayer de saisir le premier chapitre et le dernier. Comme toujours. Quand on voit le premier chapitre et le dernier, vous prenez le premier chapitre de nous états, c'est très bien. Et le dernier, c'est très bien. Entre deux, c'est pas grave. Mais c'est intéressant de comprendre que le premier et le dernier se correspondent. Hein. Et que c'est tout simplement de saisir cet aspect que l'ousia, elle est première. Elle est principe et cause. Elle est première dans l'ordre de l'être, donc elle est cause. Ce qui est premier dans l'ordre de l'être est cause. Autre chose que ça, la causalité. La causalité, c'est d'être premier dans l'ordre de l'être. C'est la meilleure définition pour le de la cause. C'est premier dans l'ordre de l'être. Parce qu'on peut être premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Si on est premier dans l'ordre de l'intelligibilité, on est principe. Uniquement principe. On n'est pas les cerveaux cause. Si on est premier dans l'ordre du devenir, alors on est cause du devenir. Alors, l'être et le devenir, trois grandes divisions. Être, devenir, intelligibilité. Or, alors ça c'est intéressant, parce que c'est une petite réflexion méthodologique. Chaque fois qu'Aristote doit faire une induction, il est extrêmement prudent, parce qu'il sait que c'est très difficile. Alors, il va très vite, mais les à côté sont lents. C'est toujours comme ça qu'on fait. Bon professeur, c'est quand c'est difficile, il faut aller très vite. Bon coup de pétasse, c'est comme quand vous montez une pente, allez, ouf, allez, un bon petit élan. Et on va très très vite. Mais on s'y prépare. On s'y prépare lentement. Or, se demander le pourquoi, c'est toujours se demander pourquoi une chose appartient à une autre. C'est évident. Qui revient ça, ça n'a rien à faire avec ce qu'il disait pas, ça n'a pas de métaphysique. Petite réflexion méthodologique. Or, se demander le pourquoi, c'est toujours se demander pourquoi une chose appartient à une autre. Chercher en effet pourquoi l'homme musicien est homme musicien. C'est assurément chercher ce que nous avons dit, pourquoi l'homme est musicien ou autre chose. Pourquoi musicien est attribué à l'homme? Pierre est musicien. Comment attribuez-vous? Alors pourquoi il est musicien? C'est le lien entre les deux. Or, chercher pourquoi lui-même est lui-même, ce n'est rien chercher. L'indivisible est saisi directement et non pas par un autre. Donc pas pourquoi. Chercher pourquoi lui-même est lui-même, ce n'est rien chercher. C'est de chercher pourquoi l'homme est homme. Pourquoi le singe est singe. Ben, il est homme parce qu'il est homme. C'est la seule réponse que vous pouvez donner. Hein. Pourquoi l'homme est homme? Parce qu'il est homme. Donc ce n'est rien chercher. Si vous l'avez saisi, vous ne poserez pas de questions, on dirait non. Aristote veut dire, et ça c'est très important. Très important, il y a quelque chose de premier auquel on s'arrête. Chercher, c'est nécessairement quelque chose de complexe. Tout le monde cherchait pas. Or, chercher pourquoi lui-même et lui-même, ce n'est rien chercher. Car il faut que le fait que l'exister de la chose soit déjà connu, par exemple, que la lune subisse une éclipse, mais que lui-même soit lui-même, est l'unique raison et l'unique cause au sujet de toutes ces choses. Pourquoi l'homme est homme ou le musicien musicien? À moins que quelqu'un ne dise que chaque chose est inséparable d'elle-même et c'est précisément son unité. Mais c'est une réponse commune et concise pour toutes. Mais ce qu'on pourrait demander, c'est pourquoi l'homme est un animal de telle espèce. Dans ce cas, il est évident qu'on ne cherche pas pourquoi ce qui est un homme, mais on cherche pourquoi tel être est prédicat d'un certain autre. Qu'il soit prédicat, il faut toujours que ce soit évident. Car s'il n'en est pas ainsi, la recherche n'a pas d'objet. Par exemple, pourquoi tonne-t-il? Parce qu'un bruit est engendré dans les nuages. Car ce qui est cherché de cette façon, c'est pourquoi telle chose s'attribue à une autre. De même, pourquoi une maison est-elle de telle chose, à savoir de briques et de pierres? Il est donc manifeste que ce qu'on cherche, c'est la cause. Vous voyez comme c'est intéressant. Une réalité complexe implique divers attributs. Je peux dire Pierre est musicien, Pierre est capable de rire, Pierre est à telle grandeur. D'où il dit prédicament. Vous pouvez dire prédicament de Pierre. Et vous cherchez le pourquoi, c'est de voir le lien qui existe, le rapport qui existe entre cet attribut et ce sujet. Toujours ce que vous cherchez. Et vous cherchez le lien. Vous cherchez la raison. Le logos. Le lien. Pourquoi cet attribut est attribué à Pierre? Qu'est-ce qui fait que vous dites que Pierre est grammairien, que Pierre est musicien? C'est ce lien que vous cherchez entre les deux. Et c'est pour ça qu'Aristote dit, chercher, c'est toujours chercher la cause. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'expérience de la cause. Vous avez l'expérience d'une réalité complexe. Toujours. Vous n'expérimentez pas l'homme comme homme. Vous expérimentez Pierre, qui est un homme. Et pourquoi Pierre est-il un homme? Et pourquoi son petit chien à côté, qui pourtant cohabite avec lui, n'est pas un homme? La réalité, c'est ça qui est sous-jacent, c'est que toujours votre expérience porte sur un sujet complexe, la substance première. La substance première auquel est attribuée les autres choses. Et ce que vous cherchez, C'est la raison de ce lien qui existe entre cet attribut et cette réalité. Mais quand vous êtes en face d'une réalité simple, quand êtes-vous en face d'une réalité simple ? Quand vous appréhendez, l'appréhension saisit l'indivisible. Quand vous êtes en face d'une réalité simple, vous ne cherchez pas le pourquoi. Vous la saisissez ou vous ne la saisissez pas. Quand vous êtes en face d'un principe, vous êtes en face d'une réalité simple. Vous la saisissez ou vous ne la saisissez pas. C'est l'ignorance ou vous la saisissez. Mais vous ne cherchez pas le pourquoi. Et c'est ça qui veut montrer. On cherche le pourquoi. Chercher le pourquoi, c'est chercher la cause. C'est chercher ce qui permet de faire le lien. Pourquoi telle chose s'attribue à une autre. De même, pourquoi une maison est-elle de telle chose, à savoir des briques et de pierres. Il est donc manifeste que ce qu'on cherche, c'est la cause.
Pourquoi est-ce qu'on est passé de manière très abrupte de la question qui est-ce à la question diative?
Oui, diative. C'est parce que diative est plus facile. Mais on va expliquer le diesti, saisir le diesti par le diative. Toujours ce que par exemple. Il prend toujours ce qui pour nous est le plus proche pour expliquer ce qui est le plus lointain. Il le dit explicitement dans la physique, ici il ne le dit pas. Mais dans la physique, il le dit. On prend toujours. Alors, c'est très difficile de savoir ce qu'est la substance. C'est cette interrogation qu'il fait et qu'il reproche à Platon de n'avoir jamais fait. Platon n'a jamais saisi ce qu'est la substance. Il a tout de suite regardé le pose de la substance. Comme Descartes. Descartes s'est jamais posé la question du tiesti de la substance. Il a regardé la substance pensante, la substance quantifiée. Alors, chercher le tiesti de la substance, c'est pas commode. Est-ce que chercher le tiesti d'un principe? Est-ce que chercher le tiesti d'un principe, c'est pas chercher quelque chose d'indivisible? Il faut démasquer le sophisme. On est pas sur le diatique. Le pourquoi. Quand vous cherchez quelque chose, au fond, c'est, je dirais, la critique, l'aspect critique, c'est un aspect critique, ça. C'est un aspect de réflexion critique. C'est de chercher la raison de la recherche. Et c'est peut-être ce qui a un petit peu manqué à Merleau-Ponty. Quand il dit que la philosophie, la recherche, c'est ce qui définit la philosophie. Alors, on a la recherche pour la recherche. Or, on ne recherche jamais pour rechercher. On recherche toujours pour découvrir. C'est la raison profonde de la recherche. Quand y a-t-il la condition sine qua non pour qui recherche? Pour qui recherche, il faut quelque chose de complexe. Il faut un tout confus qu'on va ramener à quelque chose de clair. Quand vous êtes en face de quelque chose d'évident, vous ne cherchez pas. Vous dites, mais c'est évident, espèce d'imbécile. Regardez, quoi, comprenez. C'est ça. Vous êtes en face de quelque chose d'évident. Tandis que quand vous êtes en face de quelque chose de complexe, vous cherchez. Or, c'est pas si commode que ça de comprendre le tiesti de ce principe. Alors, je vais regarder la recherche. Ah, ça, c'est dans une recherche. Et on cherche à un niveau de l'être. N'oublions pas, hein, c'est quand même assez impressionnant, puisque c'est la première recherche métaphysique. Si je suis en face de l'ousillant, c'est la première recherche métaphysique, parce que la découverte du jugement d'existence, qu'Aristote n'a pas explicité, c'est impliqué, hein, la découverte du jugement d'existence n'est pas une découverte. Une explicitation. La métaphysique commence grâce au jugement d'existence. J'explicite. La première recherche au point de vue métaphysique, c'est la recherche du vivant. C'est la première recherche. Qu'est-ce que c'est que le vivant? Le tiesti par rapport à le vivant. L'interrogation la plus simple qui soit, le tiesti par rapport à le vivant. C'est ça qui l'intéresse. Y a-t-il encore une recherche métaphysique? Vous voyez, je crois qu'on pourrait dire ça, il a peut-être dit ça. y a-t-il une recherche métaphysique? Quelles sont les conditions pour qu'il recherche? On ne recherche que lorsqu'on est en face de quelque chose de composé. Or, quand on est en face de l'être, on est toujours en face de quelque chose de simple. Apparemment. Je crois que c'est ça. Oui, c'est parce que vraiment, on est en face du premier moment de la recherche métaphysique. On l'a un peu oublié, parce qu'il y a eu tous les chapitres antérieurs, mais on l'a un peu oublié. Mais c'est quand même, le livre Zeta représente le premier moment de la recherche métaphysique. Alors c'est normal, étant donné la difficulté de cela, qu'on se pose la question, quelle est, comment y a-t-il recherche? Parce que si vous cherchez quelque chose que vous ne pouvez pas découvrir, c'est pas la peine de chercher. Donc c'est nécessaire de se poser la question élémentaire, quelle est la condition d'une recherche intellectuelle? La condition d'une recherche intellectuelle, c'est qu'on est en face de quelque chose de composé dont on ne voit pas le lien. Entre l'attribut et l'attribut. Et, je reprends. Prenons la conclusion dernière, hein, si vous voulez, pour qu'on voit mieux. L'ousia. L'ousia, pour Aristote, c'est la cause selon la forme de ce qui est. Alors, est-ce évident que l'ousia, c'est la cause selon la forme de ce qui est? Pour celui qui a découvert, c'est évident. Et ce n'est pas évident à partir de l'expérience que j'ai. Donc, il s'agit de rechercher, de comprendre le lien qu'il y a entre ousia. Alors, ousia et principe. C'est sûr. Ousia et principe. Ousia et cause. C'est sûr. Maudit. Mais selon la forme. Et ce sera la précision. Parce que c'est pas n'importe quel principe. C'est pas n'importe quel principe. C'est le principe qui dira le logos. Hein. C'est pour ça que c'est selon la forme. C'est la cause, le logos, qui me donne la raison. Pas la raison suffisante. C'est intéressant parce qu'on voit très bien comment, vous voyez, le logos est en cause, comment facilement on dira raison suffisante. Hein? Parce que raison suffisante en ce sens qu'on s'arrête après avoir découvert. Donc c'est raison suffisante. Ça explique le repos. Raison suffisante, ça explique le repos. Raison suffisante, c'est le principe de la mitzvah. Le père Garibou Lagrange met parmi les principes le principe de raison suffisante. Il a baptisé la mitzvah en l'introduisant dans le thomisme. Je crois qu'il n'y a pas de raison suffisante dans une philosophie réaliste. C'est dans une philosophie idéaliste qu'il y a une raison suffisante. Parce que l'intelligibilité rend raison de l'être. Oui. Alors on dit raison suffisante. Parce qu'on met adéquation entre l'intelligibilité et l'être. Alors là, on dit adéquation. Mais si au contraire, on comprend que nous sommes dans une philosophie réaliste où l'intelligibilité n'explique pas l'être, c'est l'être qui est intelligible, mais je ne peux pas, à partir de l'intelligibilité, rejoindre le point de vue de l'existence, il n'y a pas de raison suffisante. Il est donc manifeste que ce qu'on cherche, c'est la cause. Du point de vue rationnel, alors, du point de vue rationnel, logikos, c'est la cludité. Dans certains cas, la cludité est cause, alors à ce moment-là, c'est ça que je mets selon la forme, parce que c'est ça qui va l'intéresser. Du point de vue logikos, c'est la cludité. Dans certains cas, c'est la cause finale. Ainsi, probablement, pour la maison ou pour le lit. Dans d'autres cas, c'est le moteur premier, car lui aussi est cause. Aristote rappelle des diverses, le point de vue de la cludité, le point de vue de la fin, le point de vue de la cause finale en physique. Mais tandis que cette cause n'est cherchée qu'au sujet du fait d'être engendré ou d'être corrompu, l'autre est recherché au sujet du fait d'être. Ça aussi c'est très intéressant. Nous sommes dans une recherche métaphysique, donc au niveau de l'être. Puisque nous sommes une recherche métaphysique au niveau de l'être, nous devons comprendre que cette recherche au niveau de l'être est autre chose que la recherche au niveau du devenir. Et c'est pour ça qu'Aristote fait tout de suite cette petite distinction. C'est cette petite distinction intéressante de montrer que ce n'est pas la même chose de rechercher les causes de l'être que de rechercher les causes du devenir. Le grand avantage de rechercher les causes de l'être, c'est qu'il y en a moins. Tandis que les causes du devenir, il y en a plus. Puisque, au point de vue des causes de l'être, il y en a deux. La cause selon la forme et la cause selon la fin. La raison qu'on dit ici. C'est ça qui est intéressant. C'est dit, je reprends, du point de vue logical, du point de vue rationnel, c'est la cupidité. Dans certains cas, c'est la cause finale, ainsi probablement pour la maison ou pour le lit. C'est des œuvres artistiques. D'où vient le lit ? Pourquoi ce lit ? Pourquoi ce lit ? Pourquoi cette maison ? Pour quelqu'un qui est toujours couché sur la terre. Il dit, c'est bête ce lit, on est tellement mieux sur la terre. S'il y a un tremblement de terre, hein, on est moins secoué. Pourquoi ce lit? Pourquoi cette maison? La finalité, et puis qu'est-ce que c'est que la maison? Qu'est-ce que c'est que le lit? La cuidité du lit. Dans d'autres cas, c'est le moteur premier, car lui aussi est cause. C'est une petite incidence qui montre bien. Aristote est en face de cette première recherche sur l'être. Mettez-vous dans cette position, la première fois on interroge ce qui est en tant qu'il est. En tant qu'il est. C'est quand même difficile de savoir si je peux découvrir une cause au niveau de l'être. C'est formidable d'avoir fait ça. On est habitué. On ne voit pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Rechercher la cause du devenir. C'est normal, puisque quelle est la première cause que nous découvrons? C'est toujours l'origine. Dans le devenir, je pars de Fribourg et je vais à Berne. Je pars de Fribourg, je vais à Berne. Je retourne de Berne à Fribourg. Ça, c'est le devenir, le point de départ et le terme. C'est très facile. Dans tout devenir, on fait un point de départ. Or, notre intelligence est en connaturalité avec le devenir. Et donc la première recherche, c'est une recherche de la cause efficiente. Et c'est très difficile de dépasser ça pour arriver à comprendre que lorsqu'il s'agit de l'être, il ne s'agit plus de cause efficiente. La première grande modification de l'intelligence qui cherche, non plus au niveau du devenir, mais au niveau de l'être. Mais tandis que cette cause n'est cherchée qu'au sujet du fait d'être engendré et d'être corrompu, l'autre est recherché au sujet du fait d'être. Donc, au sujet du fait d'être, c'est la cuidité et le point de vue de la finalité. L'objet de la recherche échappe surtout dans ceux qui ne sont pas dits d'une autre manière. Par exemple, on recherche ce qu'est l'homme parce qu'on le dit simplement. Et qu'on ne détermine pas qu'il est ainsi ou ainsi. Mais il faut chercher en décomposant, chercher en analysant. Toute recherche se fait par l'analyse, pas d'autre moyen. Et la découverte des causes, c'est l'analyse la plus fondamentale. Mais il faut chercher en décomposant. Sinon, ce serait quelque chose de commun au fait de chercher et de ne rien chercher. Puisqu'il faut que l'être existe et soit donné, il est évident que ce qu'on cherche, c'est pourquoi la matière est telle. Comme c'est en phase décomposée. Pourquoi la matière est telle? Par exemple, ces matériaux sont une maison. Pourquoi? Quand vous voyez un mur, le gosse dit pourquoi ce mur? Il dit c'est un mur. Pourquoi c'est un mur? Ça veut dire que les pieds sont arrangés de telle manière qu'elles sont les unes aux autres. Tandis que quand vous voyez les mêmes pierres par terre, C'est un tas de briques ou un tas de pierres. C'est pas un mur. Qu'est-ce que c'est que le mur? Des exemples très simples. Alors, voyez bien que ces interrogations portent toujours, et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que ces interrogations portent toujours sur des objets artistiques. Pourquoi? Parce que justement, c'est à l'égard des objets artistiques qu'on comprend le mieux ces diverses causalités. Très bien pour la forme, mal, nul pour le contenu. Ça, c'est très bien ce que ça veut dire. Très bien pour la forme, très habile, nul pour le contenu. Là, vous voyez tout de suite la distinction entre matière et forme. Et tout le monde fait ça, bien que s'il n'accepte pas Aristote. Putain, ils font ça. Continue de dire matière. Très bien, tout le monde fait l'analyse comme ça. C'est l'analyse première. Toute réalité, toute œuvre implique comme ça. Toute œuvre implique une forme, une détermination et une matière. Puisqu'il faut que l'être existe et soit donné, il est évident que ce que l'on cherche, c'est pourquoi la matière est telle. Par exemple, ces matériaux sont une maison. Pourquoi? Parce qu'à ces matériaux appartient la cuidité de la maison. Le premier qui a eu l'idée de la maison. L'inventeur de la maison. L'inventeur de l'abri. L'inventeur du temple. On voit ça bien dans l'Exode. C'est Dieu qui a voulu l'invention de ça. L'inventeur de la liturgie. Une idée. Alors c'est parce que, par exemple, ces matériaux sont une maison. Pourquoi? Parce qu'à ces matériaux appartient la cuidité de la maison. On dira de même que ceci est un homme, ou plutôt ce corps possédant telle forme est un homme. De sorte que ce qui est recherché, c'est la cause de la matière, c'est-à-dire la forme idée. Voilà ce qu'on cherche. Vous posez la question devant ces briques, devant ces pierres, pourquoi c'est une maison? Parce qu'il y a l'idée de la maison. Et l'idée de la maison vient informer ces matériaux et leur donner justement cette forme, leur donner cette œuvre particulière par laquelle quelque chose existe tel, et cela c'est la substance. C'est ça qui est intéressant à voir, le passage des deux. Vous voyez comment là Aristote montre hein, qu'est-ce que nous cherchons comme maison, qu'est-ce que c'est la substance. Il s'agit d'expliciter qu'est-ce que nous cherchons. Quand nous nous posons la question, qu'est-ce que c'est que la substance? Alors il prend ce grand détour, très grand détour, mais en même temps, c'est très beau, parce que ce qui a d'ultime rejoint cette plus simple. Prenez l'analogie, si vous voulez, en respectant toute la différence qui existe entre les deux. Quand les Grecs demandent à Jésus, quand Jésus rencontre les Grecs juste avant la croix, si le grain de blé ne tombe en terre, il va pour expliquer la croix. L'exemple le plus simple pour expliquer la croix. Bien ici, l'exemple de la maison pour expliquer la substance. C'est d'une audace prodigieuse, mais c'est ça l'analogie. On prend ce qui est le plus proche de nous, là où l'interrogation est la plus forte, là où nous comprenons le mieux la recherche. C'est quand vous êtes en face des pierres et que vous dites, cette maison, qu'est-ce que c'est? Un agencement de pierre avec l'idée de la maison. Autrement, ces pierres, quand elles sont par terre, ce n'est pas une maison. Quelle différence y a-t-il entre ces pierres qui sont par terre puis la maison? D'un côté, ces pierres sont habitées par une idée. Habitées, hein, comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une forme. Il y a une forme qui fait que ces pierres sont de cette manière-là. Alors à ce moment-là, vous dites maison. La maison, c'est des pierres, des briques, une forme. C'est ça la maison. Donc vous prenez, c'est peut-être plus simple, l'œuvre d'art. C'est toujours à partir de l'œuvre d'art que je reviens, parce que c'est là où ma connaissance est la plus nette et la plus claire. Pour expliquer ce que d'ultime en philosophie, la substance au niveau métaphysique. Ça, c'est assez joli. Oui, c'est pour ça que je prends exprès cet exemple, parce que ça, on touche là ces deux manières. Hein. Dans l'évangile de Saint Jean, le passage, Jésus qui dit le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt, la croix. Expliquer le plus grand vivant par le plus petit vivant. On explique la recherche de la substance par ce qu'il y a de plus. Il n'y a pas de substance de la maison. Alors, vous voyez, on dira ça, mais vous cherchez pour la maison, mais il n'y a pas de substance. Vous prenez justement ce qu'il n'y a pas de substance pour expliquer la substance. Parce qu'il n'y a pas de substance dans la maison. Quelle est la substance de la maison? C'est la matière. Alors, il dit juste l'inverse ici. Il dit que la substance, c'est l'idée. Vous voyez, si je prends matériellement et si je ne saisis pas l'aspect, je dis c'est complètement idiot. Je comprends très bien qu'une pensée uniforme et univoque, hein, formée par Descartes, ne comprenne rien du tout à la pensée aristotélicienne. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça très beau. Parce que c'est là où on saisit ce que c'est que l'intelligence. On saisit ce que c'est que l'intelligence, de passer de l'un à l'autre de cette manière-là. Je relis parce que je crois que c'est très important, ça. Parce qu'à ces matériaux appartient la cuidité de la maison. On dira de même que ceci est homme, ou plutôt ce corps possédant telle forme, l'âme, est un homme. De sorte que ce qui est recherché, c'est la cause de la matière, c'est-à-dire la forme idée, par laquelle quelque chose existe tel. Et c'est cela la substance. Or, justement, dans le cas de la maison, ce n'est pas la substance. Mais pour la pédagogie, pour nous faire comprendre ce que c'est que la recherche, c'est magnifique. Et si vous prenez alors le point de vue d'un jugement concret, c'est juste l'inverse. C'est comme la substance du pain. Quelle est la substance du pain ? C'est pas la forme, c'est la matière avec laquelle on fait le pain. Donc la matière, la substance devient la matière, comme pour la maison, comme pour toutes les choses d'art. L'idée, elle, c'est ce qui va donner, ce qui va déterminer. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que toutes les réalités naturelles ont une substance ? Du moins chaque réalité naturelle.
C'est une autre question. Hein. Je cherche qu'est-ce que c'est que la substance ? Il faut d'abord chercher ce qu'est la substance pour savoir après jusqu'où vous pouvez chercher votre enquête. Est-ce qu'il y a une substance d'eau ? C'est une autre question, ça. Je crois qu'il faut faire grande attention. Hein. Il faut chercher le TST de la substance. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, je voulais partir de cette question pour arriver à une autre.
Ah voilà. Oui, ben, et l'eau, c'était quoi ?
Vous venez de dire qu'il n'y a pas une substance de la maison.
Quoi? Or,
la maison est une réalité artistique complète. Oui. Alors, elle est donc, elle est formée, elle est construite par des réalités simples.
Oui, oui.
Mais est-ce que dans ces réalités simples, on ne peut pas trouver une substance?
Et oui, c'est ça, je dis, c'est la matière. C'est la matière par laquelle la maison est faite. Et ce que je veux souligner, c'est cette astuce extraordinaire que Aristote souligne ici, il veut chercher qu'est-ce que c'est qu'une recherche de la cause. C'est ça qui l'intéresse. Qu'est-ce que c'est que la recherche de la cause? Qu'est-ce que c'est que la recherche de la substance? Qu'est-ce que c'est que la substance? Il revient à une recherche de cause. Il montre qu'ici, c'est la cause du tiesti. Qu'est-ce que c'est? La cuidité. L'idée. En réalité, c'est pour ça que je soulignais ça, en réalité ce n'est pas la substance de la maison. Mais au point de vue recherche, et alors ça c'est très beau, au point de vue recherche, c'est bien ça qui le met en lumière. Hein. Il le met d'une certaine manière en lumière mieux parce que c'est un objet d'art. De sorte que ce qui est recherché, c'est la cause de la matière, c'est-à-dire la forme idée, par laquelle quelque chose existe telle, mais c'est la substance. Il est évident qu'à l'égard des êtres simples, vous voyez, à la ligne, hein. Donc là on a montré ce que c'est que la recherche. On recherche toujours quelque chose à partir d'une réalité complexe. Et ce qu'on recherche, c'est la cause. C'est ça qu'on recherche. Et la cause, c'est le logos, c'est ce qu'est la réalité, son tiesti, sa cuité. Ça peut être aussi autre chose, ça peut être la fin, ça peut être la cause efficiente, mais c'est ça qu'on cherche en premier lieu. Ce qu'on cherche en premier lieu, c'est connaître l'intelligibilité de la chose. C'est la raison de la chose. Sans logos. Il est évident qu'à l'égard des êtres saints, aucune recherche ni aucun enseignement n'est possible. Vous voyez la théologie naturelle. À l'égard des êtres saints, là, c'est très bien. Il est évident qu'à l'égard des êtres saints, aucune recherche ni aucun enseignement n'est possible. Mais une autre méthode de recherche s'impose pour de tels objets. Une nouvelle méthode. Ça, c'est le livre lambda d'Aristote. Une autre méthode. Je ne comprends pas. Puisque ce qui est composé de telles choses, de telle manière, que le tout est un et semblable, non pas à la juxtaposition, mais à la syllabe. Alors un autre exemple magnifique que donne Aristote. Or, la syllabe n'est pas les éléments. Faites ça pour la maison aussi, hein. C'est exactement la même chose. Vous avez des pierres, vous avez du bois. La maison, c'est autre chose que les tuiles, les pierres, le bois, le ciment. C'est autre chose. Vous pouvez faire l'analyse réductive de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Point de chimie, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des pierres.